Et tout de suite, c'est donc le journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. 20 ans de prison requis contre Salah Abdeslam pour sa participation à une fusillade avec des policiers en mars 2016. Le dernier survivant des commandos du 13 novembre a refusé une fois encore de répondre aux questions. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Le suicide a baissé ces dernières années en France, mais c'est l'un des taux les plus élevés parmi les pays européens. En Afrique du Sud, les appels au départ anticipé du président Jacob Zuma se multiplient. Son parti, le Congrès national africain, se réunit en urgence. Interdit de critiquer l'opération Rameau d'Olivier, depuis le déclenchement de l'offensive turque dans le nord-ouest de la Syrie, 573 personnes ont été arrêtées. C'est le dossier de ce journal. C'est un procès sous haute surveillance. Un dispositif de sécurité hors norme a été déployé autour du palais de justice de Bruxelles et les journalistes sont venus en nombre couvrir l'événement. Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, comparaît pour une fusillade survenue pendant sa cavale en mars 2016. Avec un autre prévenu, le Tunisien Sofiane Ayari, il est jugé pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d'armes à feu. Antoine Marette, vous avez suivi l'audience et la procureure fédérale a requis 20 ans de prison.
C'est la peine maximale qui a été requise contre les deux prévenus. 20 ans de prison assortis d'une période de sûreté de 13 ans. La procureure fédérale estime qu'il y a eu préméditation pour les tirs qui ont visé les policiers à leur arrivée dans l'immeuble où étaient retranchés les trois terroristes présumés. Pour Kathleen Grosjean, Salah Abdeslam et Sofiane Ayari ont été les co-auteurs de la fusillade, même si elle estime que seule Sofiane Ayari a tiré sur les policiers aux côtés de Mohamed Belkaïd, finalement abattu par les forces de l'ordre. En entendant les policiers arriver, en entendant leur sommation, puis le bélier enfoncer la porte, les trois hommes ne se rendent pas, ils ne cherchent pas à fuir dans un premier temps. Ils veulent donc attaquer, combattre les forces de l'ordre qu'ils considèrent comme leur ennemi. La procureure estime qu'il y a eu préméditation car entre les sommations des policiers et leur intervention, il y a eu un certain laps de temps, une dizaine de minutes environ, le temps peut-être d'aller chercher les armes, de les charger et d'organiser un véritable guet-apens contre les policiers. Les deux survivants ne le cachent pas, ils adhèrent à l'idéologie de l'organisation État islamique et ils ont élaboré à trois un plan d'attaque. Une fois Mohamed Belkaïd blessé, ils ont décidé de fuir, le laissant mourir en martyr. Pour la procureure, c'est une véritable scène de guerre à laquelle les policiers ont été confrontés et c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de mort.
Antoine Marette au Palais de Justice de Bruxelles avec Jean-André Giannichini à la technique. Ce matin sur France Info, Gérard Chemla, avocat d'une centaine de victimes des attentats du 13 novembre 2015, a demandé qu'on arrête de faire de Salah Abdeslam une star. Vous avez quelqu'un qui vient se présenter comme une victime de la justice, qui explique qu'il est maltraité et que dans ces conditions-là, il va se taire. Il nous prend en otage, estime Gérard Chemla. Un sentiment renforcé par la forte médiatisation de ce procès, Benoît Bouscarel.
Suivi millimétrique des débats, rapport circonstancié des moindres faits et gestes du prévenu et relais immédiat de ses rares paroles qui du coup trouvent un écho très fort dans la presse ou sur les réseaux sociaux, la couverture médiatique imposante du procès Abdeslam pourrait, si personne n'y prend garde, bénéficier dans une certaine mesure aux terroristes présumés. Son refus d'être photographié ou filmé au début de l'audience, qui a d'ailleurs fait l'objet des grands titres de la presse dans les premières heures de la matinée, est en effet susceptible de lui conférer un statut particulier dans une société médiatique très pressée et plus que jamais basé sur l'image. Virginie Spies est docteur en sciences de l'information et de la communication.
Il a là une posture en fait qui renforce le côté mystérieux de cette personne. Le fait de ne pas dire, de ne pas être vu, ça va renforcer son côté mystérieux. Or, il n'a pas à avoir ce côté mystérieux. Ce que l'on accepte pour une star, entre guillemets, de cinéma ou de chanson, d'être moins vu, de gérer son image, c'est une chose. Or là, on est en effet dans un univers terroriste, donc il faut bien faire attention de ne pas, en renforçant le mystère, tomber dans le piège qui nous tend peut-être. Là, il n'est pas une star en fait, il est un prévenu qui assiste à son premier procès.
À défaut d'avoir obtenu le statut de martyr, comme les autres membres des commandos du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam tente de se poser, sinon en star, au moins en victime du système judiciaire. Il l'a très clairement expliqué ce matin et tout au long de son procès il tentera d'y arriver en profitant très adroitement de la tension de plus en plus forte entre temps judiciaire et temps médiatique.
Le procès bruxellois de Salah Abdeslam doit reprendre et s'achever jeudi. L'hiver se fait sentir après deux mois d'une douceur exceptionnelle, les températures chutent et la neige entraîne son lot de perturbations. Le plan grand froid a été déclenché dans 22 départements pour l'hébergement des sans-abri. De nouvelles places vont donc être ouvertes, la veille sociale et les maraudes renforcées. En Ile-de-France, 649 places supplémentaires vont être mobilisées, dont 238 à Paris même. L'Observatoire national du suicide révèle des chiffres en baisse. Selon ce troisième rapport, ils ont chuté de près d'un quart entre 2003 et 2014. Mais les chiffres restent néanmoins élevés. 24 suicides par jour en France métropolitaine. Sur les 32 pays européens comparés, la France reste au 10e rang. Et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans après les accidents de la route, Tara Schlegel.
Oui, les décès par suicide représentent 16% des décès chez les jeunes, chez les 15-24 ans. Ce qui, vous l'avez dit, est la deuxième cause de mortalité. Mais on ne sait presque rien des mobiles de ces garçons et filles passés effectivement à l'acte. Ce que l'on mesure en revanche un peu, ce sont les mobiles des tentatives de suicide. Grâce à une enquête menée en partenariat avec la direction du service national, 26 000 adolescents de 17 ans ont été interrogés lors de leur journée de défense et de citoyenneté qui remplace le service militaire. Et on voit dans ces questionnaires que 3% des jeunes ont fait une tentative de suicide au moins. Mais surtout que les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à l'avoir fait et deux fois plus nombreuses que les garçons à y avoir pensé. L'étude montre aussi que c'est dans le Nord et en Normandie que l'on passe le plus souvent à l'acte en France. 4% des adolescents de Haute-Normandie ont par exemple tenté de se suicider contre 0,8% en Corse et 2% en Île-de-France. On voit aussi que les jeunes dépressifs sont, cela paraît assez évident, les jeunes les plus suicidaires, que ceux qui sont en difficulté scolaire, ce qui se mesure au redoublement, sont aussi plus aptes à faire une TS, comme on dit, de même que les apprentis ou les jeunes actifs qui sont plus vulnérables que les étudiants et les élèves encore scolarisés. Les enfants de familles monoparentales sont aussi plus vulnérables. L'autre étude intéressante concerne les lycéens de 15-16 ans en France qui sont 10%, disent-ils, à avoir pensé au suicide. Ils apparaissent aussi dans une étude portant sur 11 pays comme en France les plus déprimés et les plus anxieux de tous les lycées européens. Ce qui paraît encore plus inquiétant peut-être pour nous parents, c'est que l'âge moyen des jeunes filles et des jeunes garçons qui se suicident est de 13 ans et demi, ce qui nous inciterait à essayer de diagnostiquer les signes avant-coureurs des suicides que malheureusement bien souvent on ne sait pas voir.
Tara Schlegel, et si l'on prend en compte l'ensemble de la population, le taux de suicide culmine chez les hommes de plus de 74 ans. Pas de vœux aux salariés cette année à Radio France. Après la condamnation de Mathieu Gallet pour favoritisme, la cérémonie avait été repoussée dans l'attente de la décision du CSA. Le PDG, révoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a finalement souhaité réunir les collaborateurs de Radio France aujourd'hui, à la mi-journée. C'est la première fois qu'on l'entendait depuis sa condamnation, Cécile de Carvaz-Doué.
Je ne vais pas revenir sur la décision du CSA, je suis venue vous parler de vous et de votre avenir, a démarré le PDG de Radio France, avant d'expliquer qu'il resterait en poste jusqu'au 1er mars, date fixée par le CSA pour son départ, et que dans cet intervalle, il assurerait la transition avec le doyen d'âge du conseil d'administration de l'entreprise, qui doit faire l'intérim et qu'il rencontrera dès demain. Durant les trois prochaines semaines, Mathieu Gallet compte d'ailleurs réunir le conseil d'administration de Radio France pour dire au revoir, dit-il, avant de conseiller au salariés de Radio France d'être comme lui, offensif devant l'adversité. Sans doute veut-il rappeler qu'il a fait appel de la décision de justice qui le condamne à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour favoritisme. Mais va-t-il ou non faire un recours devant le Conseil d'État pour annuler la décision du CSA ? Il n'en parle pas devant les salariés. Son avocat assure ce soir qu'il n'a pas encore pris sa décision et que si recours il y a, il ne sera pas obligatoirement suspensif, c'est-à-dire qu'il n'aboutira pas au maintien du PDG sortant à son poste. Mathieu Gallet devrait se prononcer sur ce point demain ou après-demain. J'ai des sentiments mêlés, a confié aussi le PDG condamné, de la tristesse et de la fierté. Et c'est ainsi que durant 20 minutes, il a salué son propre bilan à la tête de Radio France et son équipe dirigeante, car il a, dit-il, su ouvrir Radio France vers ce qu'il appelle le média global et le mode projet. Avant de conclure devant les salariés, certains d'entre vous peuvent avoir des doutes, des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, du désarroi, de la colère même, mais il faut rester concentré face au bouleversement à venir, a conclu celui qui doit encore rendre ses propositions de réforme de l'audiovisuel public devant le gouvernement, et ce, dès le mois de mars prochain.
Cécile de Carvaz-Doué, le collectif CGT Carrefour rappelle les salariés à une semaine de la colère, une semaine de mobilisation contre la suppression de milliers de postes en France. Illustration aujourd'hui dans l'hypermarché Carrefour de Montreuil, près de Paris. Plus de 200 personnes ont envahi les rayons pour dénoncer les suppressions de postes annoncées par Alexandre Bompard, le PDG du groupe. Écoutez le reportage de Guillaume Gaven.
Au milieu des rayons, parmi les clients qui continuent de faire leurs courses, des drapeaux rouges de la CGT. Bompard rend l'argent. Le syndicat accuse Carrefour d'avoir largement profité des subventions de l'État, plus de 2 milliards perçus depuis 2013, dit-il. pas question de supprimer des postes dans ce cas, surtout quand on continue de gagner de l'argent, martèle Philippe Allard, le délégué de groupe.
C'est pas utopique, hein. Il y a 1 milliard de bénéfices chaque année, il y a 500 millions d'actionnaires, donc c'est un groupe pérenne.
Et les manifestants ont pu compter sur le soutien de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est venu en voisin, le siège du syndicat est juste en face. Philippe Martinez, pas dupe de ce que réserve l'avenir.
Évidemment, les annonces sont à minima. On sait très bien que quand d'autres employeurs rachètent un établissement, en général, ils reprennent le personnel. Et puis derrière, eh bien, ils disent « vous êtes trop nombreux, faut pas nous prendre pour des imbéciles ».
C'est ça que craignent les salariés. Un plan caché pour Carrefour qui irait au-delà des annonces déjà faites. Frédéric Gérard, délégué Carrefour Market, craint le pire.
Je suis persuadé qu'il y a eu une première annonce pour les médias, pour les marchés financiers, les actionnaires. Ça vous a pas échappé que l'action a pris 3,22% dans la journée après une pointe à 6%. Je pense qu'il va y avoir plusieurs annonces.
Réduction des surfaces des hypermarchés, partenariat avec la Fnac, Darty pour l'électronique. Au total, la CGT chiffre à 10 000 le nombre de postes qui seront supprimés.
Après la CGT, Force ouvrière appelle à la grève et à un rassemblement jeudi devant le siège du géant de la distribution à Massy, dans l'Essonne. Aux États-Unis, le procès qui s'ouvre à San Francisco sera sans doute suivi par toute la Silicon Valley. La société Uber est en effet accusée par l'entreprise Waymo, ex-Google Car, de lui avoir volé sa technologie en matière de conduite autonome. C'est un enjeu très important car la plupart des constructeurs automobiles et de nombreuses entreprises technologiques sont en train de se positionner sur ce marché d'avenir. La société Waymo réclame 1 milliard de dollars à Uber. À Washington, Grégory Phillips.
Fin 2015, un certain Anthony Lewandowski quitte la société Waymo, c'est la filiale voiture autonome de Google, pour aller créer sa propre start-up et quelques mois plus tard, la start-up en question est rachetée par Uber pour 560 millions de dollars. Lewandowski devient chez Uber le patron de la division conduite autonome. Aujourd'hui, Waymo accuse donc Anthony Lewandowski d'être parti avec sur lui des milliers de documents confidentiels, 14 000 au total, et ce transfert de compétences aurait permis à Uber de rattraper son retard et de prendre position sur un marché jugé crucial aux États-Unis. La plupart des entreprises technologiques et des constructeurs automobiles sont lancés dans cette course et Uber et Google mènent actuellement des expériences dans plusieurs villes du pays. General Motors, de son côté, espère pouvoir mettre en vente une voiture autonome destinée au grand public dans le courant de l'année 2019. C'est dire si ce procès va intéresser de près tous ceux qui cherchent à concevoir des voitures autonomes. L'ex-patron d'Uber, le controversé Travis Kalachnik devrait être appelé à la barre. Les débats seront sans doute assez techniques. Et pour la société Uber, qui prépare son entrée en bourse dans quelques mois, une éventuelle condamnation à une amende aussi élevée, 1 milliard de dollars, pourrait avoir de lourdes conséquences sur les comptes de l'entreprise déjà déficitaire.
En Afrique du Sud, l'étau se resserre autour du président Jacob Zuma. À 3 jours d'un important discours devant le Parlement, son parti, le Congrès national africain, tente toujours de négocier la sortie du président de la République, discrédité par une série de scandales de corruption. Depuis la mi-décembre, Jacob Zuma n'est plus président de l'ANC. C'est le vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui a pris les rênes de l'organisation. Et c'est lui qui doit mener le parti majoritaire aux élections de 2019. Mais beaucoup jugent cette mission difficile tant que le président controversé sera au pouvoir. Les explications de Lisa Fabian au Cap.
Depuis 2 semaines, le Congrès national africain multiplie les réunions et les débats en interne pour tenter de trancher l'avenir de Jacob Zuma. Un comité de travail spécial a même été mis en place pour tenter de négocier la sortie du chef de l'État. Ses 26 membres se sont réunis dimanche soir en urgence, apparemment sans parvenir à convaincre le président de rendre sa démission. Ce comité de travail s'est réuni de nouveau ce lundi après-midi au quartier général du Congrès national africain. En marge de cette réunion, le siège du parti majoritaire a été le théâtre d'un face-à-face tendu entre opposants et partisans du chef de l'État qui manifestaient dans la rue. La pression monte alors que Jacob Zuma doit délivrer ce jeudi son traditionnel discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Cet événement est l'un des plus importants rendez-vous de la vie politique sud-africaine. Ces dernières années, l'opposition a pris pour habitude de perturber régulièrement ce discours afin de demander des comptes à Jacob Zuma. L'opposition, qui a d'ailleurs déposé une nouvelle motion de défiance contre le chef de l'État. Celle-ci doit être examinée le 22 février par le Parlement.
Le coup de froid entre la Turquie et les Pays-Bas se confirme. La Haye annonce aujourd'hui le retrait de son ambassadeur à Ankara. Les relations entre les deux pays étaient déjà particulièrement fraîches depuis près d'un an, quand La Haye avait refoulé 2 ministres turcs du sol néerlandais. Les précisions de Lex Milota à Bruxelles.
En mars 2017, l'avion du ministre turc des Affaires étrangères ne reçoit pas l'autorisation de se poser sur le sol néerlandais. Le ministre est là pour s'adresser à la communauté turque des Pays-Bas et prononcer un discours de soutien au président Erdogan. Ce dernier est alors en campagne pour le référendum sur le renforcement de ses pouvoirs. Les Pays-Bas refusent, invoquant l'ingérence d'Ankara dans ses affaires intérieures en pleine élection législative. Apprenant les faits, la ministre turque de la famille décide alors de se rendre en voiture d'Allemagne jusqu'à Rotterdam pour remplacer le ministre renvoyé. Mais elle aussi sera refoulée à quelques mètres de son objectif et n'atteindra jamais le consulat. La Turquie avait alors exigé des excuses de la part du gouvernement de Mark Rutte, le Premier ministre, et refusé le retour de l'ambassadeur néerlandais qui était hors du pays. Les Pays-Bas ont donc aujourd'hui officiellement retiré leur ambassadeur de Turquie et préviennent « Nous n'accorderons pas non plus d'autorisation pour l'entrée en fonction d'un nouvel ambassadeur turc aux Pays-Bas ».
Recep Tayyip Erdogan a pu afficher des relations bien plus cordiales avec le pape François. Lors de cette visite inédite au Vatican, les entretiens ont été centrés sur la question de Jérusalem, qui fait consensus entre la Turquie et le Vatican. Le pape François a tout de même fait passer en douceur un message au président turc en lui offrant un médaillon représentant un ange étranglant le démon de la guerre. Or, dans le nord de la Syrie, c'est le 17e jour de l'opération militaire turque contre les forces kurdes dans l'enclave d'Afrin, une offensive contre laquelle les autorités ne tolèrent aucune critique. Ces derniers jours, 573 personnes qui s'étaient exprimées publiquement contre l'opération ont été arrêtées. Même l'association professionnelle des médecins est visée par une enquête pour avoir voulu dire non à la guerre. À Istanbul, Alexandre Billette.
C'est un communiqué de 5 phrases qui se termine par un appel à la paix. Et à cause de ce texte, 11 dirigeants de l'Union des médecins de Turquie ont été placés en détention. Certains le sont encore depuis plus d'une semaine. Difficile, sinon impossible, de dénoncer l'opération à Afrin. D'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan avait prévenu « Ceux qui manifestent contre l'offensive vont en payer le prix ». Pour les autorités turques, c'est une question d'union nationale et ceux qui s'y opposent s'exposent à des risques. Le docteur Samet Mengüç est l'un des responsables de la Chambre des médecins d'Istanbul.
Au siège de l'Union des médecins, par exemple, en une seule journée, nous avons reçu environ 40-45 appels téléphoniques de menaces très violentes. Dès que notre déclaration publique en faveur de la paix a été dénoncée par les autorités politiques.
Menaces et arrestations également pour ceux qui ont partagé sur les réseaux sociaux des opinions discordantes. Ce lundi, le ministère de l'Intérieur parle de 449 personnes qui ont été officiellement placées en garde à vue pour cette raison. Et au moins 32 d'entre elles sont inculpées pour propagande terroriste. Ali Ergin Demiran est l'un des piliers du site d'information de gauche syndicat.org, un site qui a été bloqué plus de 60 fois par les autorités. Il explique le mécanisme qui, selon lui, permet l'arrestation des utilisateurs de réseaux sociaux.
Il y a ce groupe informel que l'on appelle les trolls du parti au pouvoir. Pour frapper un site, une publication ou une personne, ils remontent toutes vos publications sur les réseaux sociaux pour trouver quelque chose et portent plainte. L'État peut remonter ainsi jusqu'à un tweet publié en 2002 pour ouvrir une enquête. Si tu as écrit des grossièretés ou des bêtises en étant un peu saoul, par exemple, et si ça concerne la religion ou Erdogan en particulier, alors on peut t'inculper.
Aujourd'hui, même le principal parti d'opposition s'est prononcé en faveur de l'opération à Afrin. En fait, sans surprise, seule la gauche pro-kurde du parti HDP est contre. Le parti est déjà dans le viseur des autorités et aujourd'hui, il paie aussi les conséquences de sa position contre l'offensive, selon ce cadre du HDP à Istanbul.
Dès le deuxième jour de l'offensive, dans un quartier d'Istanbul, nos membres ont été attaqués. On leur a interdit de quitter les locaux du parti. Même chose dans un autre local de quartier. Des manifestants nous ont empêchés de sortir pour faire une déclaration publique.
Le HDP particulièrement visé lors des arrestations des derniers jours, parmi toutes les personnes en garde à vue, plus de 200 sont des militants du parti.
Alexandre Billette, un procureur d'Ankara vient d'ordonner la remise en liberté sous contrôle judiciaire de 8 membres de l'Union des médecins de Turquie arrêtés la semaine dernière. La météo, 40 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. Demain, de nouvelles chutes de neige sont attendues, notamment pour le nord du pays, avec des conditions de circulation difficiles. Météo France prévoit de faibles gelées sur l'ensemble du territoire. L'après-midi, il fera de 1 à 8 degrés du Massif central à la façade ouest, de 7 à 15 du Languedoc à la Corse, où Emmanuel Macron se rendra demain. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.